Vous écoutez France Culture.
Une vie, une œuvre, les rediffusions d'été, c'est tout de suite. Ingeborg Bachmann, 1926-1973. Une vie, une œuvre pour ses rediffusions a décidé de jouer au jeu des pères. Père d'amis ou d'amoureux, un compère le samedi, sa moitié le dimanche. Alors aujourd'hui, une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celle qui était auteure, poétesse, de celle dont le père était nazi, de celle qui est morte brûlée vive comme l'une de ses héroïnes. Et demain, ce sera l'histoire d'un de ses grands amours, l'architecte et auteur Max Frisch. Tantôt brune, tantôt blonde, les cheveux longs, les cheveux courts, la frange ou la mèche accrochée à l'oreille, Ingeborg Bachmann, sur la plupart des photos, a un large sourire communicatif, ouvert et généreux. Son visage est rond et elle porte souvent de jolis colliers, parfois des lunettes, des corsages fleuris ou des chemises d'homme. Sur certains clichés, elle est en train de parler et d'expliquer. Sur d'autres, elle pose tranquille devant l'objectif, légèrement songeuse. Elle semble toujours vivante, toujours présente, lisant le journal, se recoiffant, aux prises avec sa machine à écrire ou avec un plateau d'échecs. Il y a aussi une photo d'elle, enfant. Elle rame dans une barque, sur un lac. Derrière elle, il y a un vaste paysage montagneux. Et elle est comme écrasée, enfermée par cette masse de pierre grise, seule au fond du lac de la vallée, comme terrassée par l'histoire autrichienne. Alors écoutons l'histoire d'Ingeborg Bachmann par Blandine Masson et Jean-Claude Loiseau.
Non, je vis seule. Pourquoi ? Parce qu'à deux, je ne sais pas, c'est tout. Oui, j'étais mariée il y a très longtemps. Mais je ne me souviens plus du tout du visage de mon mari. Ah non, pas du tout, je n'aurais pas aimé être aviateur. Non.
Moi qui ai lu tous les livres, du De Rerum Natura au culte de la raison, à raison de 30 gauloises par jour, qui ai pratiqué l'histoire et la philosophie, la médecine et la psychologie, travaillé à la clinique psychiatrique de Steinhoff sur les anamnèses des schizophrènes et des maniaques dépressifs, moi qui ai élu Marx et Engels en me séchant les cheveux, Lénine complètement ivre, qui ai absorbé journaux sur journaux dans l'égarement, la déroute, tout enfant déjà devant le poêle, en allumant le feu, des journaux, des revues, des livres de poche partout, dans toutes les gares, les trains, les trams, les omnibus, les avions, moi qui ai tout lu sur tout, en quatre langues, fortitaire, fortitaire, tout compris ce qu'il y a à lire, délivré pour une heure de toutes mes lectures, je m'étends à côté d'Ivan et je dis, pour toi, si tu le veux vraiment, j'écrirai ce livre encore inexistant. Mais il faut que tu le veuilles vraiment, que tu l'exiges de moi, et jamais je ne t'imposerai sa lecture. Ivan dit, espérons que ce sera un livre qui finit bien, espérons-le.
Peut-être, ça ne peut pas. Ça dépend, c'est une affaire. C'est tellement étrange tout ça.
Une vie, une œuvre, Ingeborg Bachmann.
Ah, pas du tout, je ne suis pas morbide. J'ai peur. J'ai peur. Non. Non, j'ai peur.
Dans un hôpital romain, vient de mourir la poétesse la plus intelligente et la plus importante que notre pays ait produite au cours de ce siècle, des suites des brûlures qu'elle se serait infligées dans sa baignoire, selon les constatations des autorités. J'ai fait des voyages avec elle. Et au cours de ces voyages, j'ai partagé beaucoup de ses vues philosophiques et aussi de ses vues sur la marche du monde et sur le cours de l'histoire qui toute sa vie l'a épouvantée. Thomas Bernhard.
Les poètes, qui sont en fait les explorateurs de ces univers, qui sont des univers très solitaires, ils l'ont payé très 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 cruellement avec leur corps.
Hélène Sixous.
Ingeborg Bachmann, je suis sûre qu'elle en est morte. C'est d'ailleurs ce que dit Thomas Bernhard. Il ne met pas en doute une seconde, justement, la vérité de la mort d'Ingeborg Bachmann. Et pour lui, sans aucun doute, elle a été tuée. Même si on ne sait pas si elle s'est suicidée, si elle est morte accidentellement. Il n'y a pas d'accident. Il y a évidemment une programmation de son destin. Et puis il y en a d'autres. Clarice Lispector a eu un sort analogue. Nelly Sachs aussi. Enfin, je veux dire, c'est sans fin. Tout le monde, toute personne qui s'approche de ces lieux, le paye d'une manière ou d'une autre.
Elle est allée trop loin. cette semaine.
Eh bien, alors, je vais vous dire, oui, elle est allée trop loin. Mais peut-être que, justement, aller trop loin, c'est aller bien. C'est là où il faut aller. Aller trop loin, c'est aller suffisamment loin. C'est là qu'il faut aller. J'ai le sentiment, justement, que... Parce que c'est quelqu'un qui souffre tellement de manière si visible que face aux attaques de la vie, aux attaques du monde, elle ne s'est pas défendue. Peut-être qu'elle n'avait pas de quoi. Je veux dire que peut-être on lui avait arraché toutes ses armes déjà depuis longtemps. Peut-être qu'on lui avait enlevé la foi. Je veux dire la foi en... peut-être qu'on lui a enlevé la direction, la possibilité de retrouver la terre, je ne sais pas. En tout cas, il est sûr qu'elle est dans une vulnérabilité sans limite. Donc, elle n'est que dans la tragédie. Il n'y a pas de moment de paix qui, évidemment, ne peut s'établir qu'à partir d'un renoncement extrême, puisse s'établir chez elle. Jamais. Alors, elle est en proie à tous les démons. Maintenant, je dois dire, je ne la juge pas parce que je me dis, elle est autrichienne. C'est-à-dire, d'une certaine manière, je me dis, peut-être qu'on ne peut pas échapper à ça. Peut-être qu'on ne pouvait pas échapper à ça. En ayant cette sensibilité poétique, à l'époque où elle a vécu, et avec la charge d'histoire et d'ignominie qui l'entourait. Mais ça, je ne sais pas, c'est une hypothèse. Je me dis peut-être qu'une Autrichienne, avec une grande âme, était condamnée. Enfin, dans les années 70.
J'ai acheté pour la terrasse quelques arbustes et buissons, mais une taverne à bière viennoise empeste la région, car les gaz d'échappement débouchent sur ma terrasse et non dans le ciel. Et cela n'est rien encore. Le plus irritant, c'est que je suis moi-même responsable de mon idée fixe, aller à Rome. Et je me suis tellement accroché des griffes et des dents à cette ville, non parce que je l'aime à la folie, ce n'est qu'à moitié vrai, mais parce qu'elle m'a été trois fois ôtée de la manière la plus indigne, et parce qu'on ne se détache pas d'un lieu où l'on a tellement investi. Ne me croyez donc que sous réserve quand je vous dirai une fois de plus à quel point Rome me plaît.
Barkman, c'est une sorte d'exilée permanente parce qu'elle est partie très tôt, avec peut-être cette idée toujours de revenir un jour, chose qu'elle n'a finalement jamais faite, sauf pour être enterrée, puisqu'elle est morte assez jeune, elle est morte à 47 ans, à Rome, et elle est enterrée à Klagenfurt, justement.
Oui, c'est vrai qu'il y a chez Barkman, effectivement, cette idée, cette tentation du voyage, elle est permanente. On la trouve dans l'œuvre, bien sûr, mais elle est constitutive de la vie de Barkman. Il y a ses déplacements, ses déménagements. Elle a vécu...
Miguel Couffon.
Effectivement, à Vienne. Elle a vécu un petit peu à Berlin. Elle a vécu à Munich. Elle a vécu à Zurich. Elle a vécu à Rome. Et il y a aussi toujours cette idée du retour, d'une idée de retour. On s'en va, mais il ne faut pas s'en aller peut-être trop longtemps. On trouve ça également dans les poèmes. Et c'est une chose assez curieuse. Dans nombre de poèmes, Barkman prend le bateau, par exemple. Le bateau s'élance, mais Barkman n'a pas levé l'ancre. Et c'est-à-dire qu'au moment où le bateau va s'élancer, Barkman se retourne. Et elle évoque à ce moment-là, donc dans ses poèmes, des éléments qui sont des éléments fixes, des éléments qui la rattachent à la terre, qui la rattachent à ce qui est solide, fixe, qui la rattachent à la raison, parce qu'il y a toujours chez Barkman cette peur de perdre la raison, de sombrer dans la folie. Alors un des éléments de paysage, un des éléments poétiques, qui, un de ses liens avec la réalité, c'est l'arbre, par exemple. L'arbre qui intervient très souvent dans les poèmes de Barkman et qui sans doute a une valeur de... l'arbre, il est accroché au sol.
C'est un enracinement.
C'est un enracinement.
Elle a une relation très complexe de haine et d'amour avec cette patrie qui est l'Autriche, bon, qui est une relation difficile, une relation que d'autres écrivains autrichiens ont eue. Mais bon, si on reprend un peu l'histoire de Barkman depuis le début, elle est née en 1926, elle a vécu quand même ce choc terrible qui était l'arrivée des troupes hitlériennes à Klagenfurt.
Barkman évoque ça souvent par sous-entendu. Enfin, il y a des phrases quand même qui sont très nettes. Par exemple, dans cette nouvelle, justement, de jeunesse dans une ville autrichienne, où elle parle de son enfance, de ses petits-enfants, une très belle page d'ailleurs, et elle dit à un moment donné, il n'y a plus de pièces de monnaie qui tombent dans la tirelire. Devant les enfants, on parle par allusion. Ils ne peuvent pas comprendre que le pays est sur le point de se vendre.
À Rome, à l'aube, j'ai regardé vers le Testatschut depuis le cimetière protestant et j'ai jeté là mon chagrin. Qui s'efforcera de gratter la terre retrouvera dessous celui des autres. Dans le cimetière qui cherche ombrage au pied du mur d'Aurélien, Les débris de poterie ne sont pas recensés. On considère qu'ils ont peu d'importance. Il tient un gros nuage comme un coquillage contre son oreille et n'entend plus qu'une seule note. Il y a eu un certain moment qui a réduit mon enfance en miettes. L'entrée des troupes de Hitler à Klagenfurt. Ce fut tellement épouvantable que mes souvenirs commencent ce jour-là. Par une douleur trop tôt venue et si intense que je n'en ai peut-être jamais plus ressenti avec une telle force. Naturellement, je n'ai pas compris tout cela à la manière dont le comprendrait un adulte. Mais cette monstrueuse brutalité qui était décelable, ses hurlements, ses chants, ses parades, la naissance de ma première angoisse de mort.
Abends frage ich meine Mutter heimlich nach dem Glockenläuten, wie ich mir die Tage deuten und die Nacht bereiten soll. Tief im Grund verlang ich immer, alles restlos zu erzählen, in Akkorden auszuwählen, was an Klängen mich umspielt. Leise lauschen wir zusammen, meine Mutter träumt mich wieder und sie trifft wie alte Lieder meines Wesens Dur und Moll. Bachmann dit, le soir j'interroge ma mère, qu'elle me dise comment comprendre les jours et préparer la nuit. Je demande toujours que tout soit raconté sans rien omettre. Je demande à choisir pour les composer en accord les sons joueurs qui m'entourent. Ma mère me rêve de nouveau. Voilà un vers qui est beau et en même temps pas du tout évident. Ma mère me rêve de nouveau et elle atteint, comme d'anciens chants, les tons majeurs et mineurs de mon être. Le soir, j'interroge ma mère. Ça, c'est... Sans doute, il y a eu chez Bachmann, des toutes petites déjà, il fallait savoir ce que voulait dire chaque chose.
En lisant Bachmann, je viens de Ceylan. Et ce cheminement est un cheminement extrêmement fructueux. Puisque il y a là deux grands poètes qui ont écrit au même moment.
Jean Bollack.
Il y a une grande différence, c'est que l'œuvre de Ceylan est entièrement lyrique. C'est-à-dire qu'il rencontre le langage, il rencontre la société et même l'histoire uniquement dans la poésie. Alors que chez Ingeborg Bachmann, la poésie joue un très grand rôle à un moment de son évolution, dans les années 50 primordialement, et puis encore des poèmes dans les années 60. Mais ensuite, dans une deuxième période, elle est quand même passée à tout à fait autre chose. C'est-à-dire que le statut de la poésie n'est pas le même. Alors pour ce qui est des relations entre Ceylan et Bachmann, premièrement, ils se sont connus et bien connus. Ceylan, qui a quitté la Roumanie clandestinement en 1948, il a d'abord, avant de rejoindre Paris, fait un séjour de quelques mois à Vienne, en 1948. C'est au moment où Ingeborg Bachmann finissait la thèse de doctorat qu'elle a faite sur Heidegger, selon les vues philosophiques de Boschinski. Il y a des poèmes. Il y en a un en particulier, de Ceylan, où il est très clairement, très directement, comme toujours chez Ceylan, fait allusion à la personne et à la poésie de Bachmann.
Ce
poème dit, alors c'est pour le dire en un mot, à la fois au sujet de ce qu'était la Vienne détruite, la Vienne, disons, en ruine de cette époque-là, les ruines qui s'étendent, disons, jusqu'au camp d'extermination, et puis, disons, à la fois ce qui a pu les relier et les séparer. Et là, on est très en profondeur, dans ce que cette rencontre entre Bachmann, l'immense effort qu'elle a pu faire pour comprendre une position comme celle de Ceylan, n'est-ce pas, en se demandant dans quelle mesure ce n'est pas aussi la mienne, et combien ça lui était aussi impossible de le suivre dans sa radicalité.
Je l'ai aussi connu dans le cadre du groupe 47, si ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Avec ce groupe commence la littérature allemande après-guerre.
Paul Nison.
J'avais été introduit, il fallait avoir un patronage pour y pénétrer. Je crois que j'étais le premier Suisse qui participait à ce groupe. Et là, j'étais invité sous le patronage de Ingeborg Bachmann, de Martin Walser et de Günter Grass. Mais c'était très difficile pour moi parce qu'elle était, où elle se donnait très timide. Elle parlait d'une voix très très basse et s'interrompait, elle ne trouvait plus les mots, on ne savait pas si elle allait tout de suite tomber dans une crise, mais en même temps, les yeux vous disaient qu'il s'agissait d'une femme ou d'une personnalité très très forte, parce que physiquement, elle était très robuste. Et dans les traits du visage, il y avait aussi... Il pouvait avoir quelque chose de dur, disons, de masculin, très très concentré, et elle faisait l'impression d'être extrêmement timide et fragile. Alors, c'était presque une légende... Partout où elle bougeait, il y avait des autres écrivains qui couraient au secours parce que cette sainte de la littérature, qui avait vraiment, qui avait pas seulement une couronne mais une auréole, on craignait toujours qu'elle tombait dans les pommes ou qu'elle et qui était vraiment adorée profondément. Ça faisait partie de l'image.
C'est le groupe 47 qui a invité.
Le groupe 47 a invité, Richter a invité. En vérité, c'est lui, ce qui n'est pas mal. Je veux dire, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas là de principe monarchique, mais il y a quelqu'un qui faisait le boulot et qui assumait la responsabilité. Et donc, parce qu'il voulait, ça se voulait à la fois ouvert, mais suffisamment fermé pour qu'on puisse discuter à fond. Non, les gens lisaient un texte qu'ils avaient écrit et on le critiquait très ouvertement. Alors finalement même, il s'agissait de voter, ils ont institué des prix pour savoir qui recevait le prix. Et puis Ingeborg Bachmann, en 1953, elle a eu donc un prix pour sa poésie. Voilà, alors maintenant, c'est assez intéressant de se demander à quoi cela répond. Premièrement, évidemment, nécessairement, on travaille sur la langue. Et on s'est dit, ça ne peut plus se dire. Et toi, tu emploies ce terme, ça n'existe plus. On peut parler très franchement sur la manière dont les gens, en écrivant, s'expriment. Et donc, on touche la langue. Et on touche le statut de la langue. Et donc aussi, le statut des interventions, de l'intervention des écrivains dans la vie culturelle et publique. Et même politique. Et alors, en dehors de tout parti, puisque, évidemment, il n'y avait pas, les grandes limites imposées, comme l'était en France par le Parti communiste, ou comme ça, à la même époque. Voilà. Ce n'était pas politique en ce sens, c'était politique d'une façon, au fond, assez beaucoup plus profonde. Hein? Alors, c'est ce que je peux dire de plus profond, c'est que le groupe 47, voulant créer une situation nouvelle, ce qui a toujours de la grandeur, puisqu'on assume une rupture, peut-être ne sont-ils pas non plus allés jusqu'au bout de l'examen des raisons pour lesquelles l'événement là, qui les séparait seulement de quelques années, non, en 47, pourquoi ça avait pu avoir lieu et quelle était la responsabilité des écrivains sous les nazis. Donc voilà, il y a là quelque chose de très intéressant, par exemple cette absence de Celan, bien qu'il y ait été. Alors, je veux bien qu'on l'ait invité et qu'il n'y soit pas allé, mais il avait aussi ses raisons pour ne pas y aller.
L'absence de Celan du groupe 47, telle que vous la décrivez. Et puis, par contre, le couronnement de Ingeborg Bachmann c'est, par le même groupe, c'est une façon, on peut comprendre là aussi ce qui pouvait à un moment séparer Ingeborg Bachmann et Celan.
C'est difficile à dire. Hein. Disons l'accusation que Celan a voulu écrire en allemand contre l'allemand. Et Bachmann, parfois, quand elle écrit des poèmes que j'appellerais célaniens, qui sont comme ça un hommage à cette étrangeté absolue de Célane, elle partage ce point de vue. Mais elle ne le défend pas, quand même pas comme lui, c'est comme si elle se référait elle-même à cette position à travers lui.
Je veux dire que c'est pas à l'intérieur d'elle-même que ça
c'est
se
C'est moins produit. À l'intérieur d'elle-même, je veux dire. Alors là, la nuance est très difficile à saisir, aussi bien, là, vous voyez que je dis que c'est quelque chose d'essentiel, et donc il faut vraiment le dire avec justesse. Mais ça touche le groupe 47 en profondeur, parce que, précisément, on peut se demander dans quelle mesure il n'a pas davantage voulu créer une possibilité nouvelle d'expression, qui n'ait pas été imposée du dehors, ni non plus entièrement rendue impossible par l'événement, alors que Célane disait qu'il y avait pour eux, et pour l'instant, pas d'autre sujet que l'événement qui avait eu lieu et qui avait tué ses parents et qu'il l'avait tué lui-même dans son âme.
Peut-être aussi qu'elle faisait l'impression d'une victime, qu'elle était vraiment pas seulement ravagée par des motivations individuelles, mais par le temps, par les crimes ou tous les démons de l'époque.
Par l'histoire,
c'est ça. Et puis elle était vraiment, faisait l'impression de quelqu'un qui était vraiment exposé, vulnérable, solitaire. Mais de l'autre côté, elle était, par exemple, dans les réunions d'écrivains, elle était toujours pas seulement entourée d'amitié, mais presque entourée, elle avait presque une cour autour d'elle, vraiment de chevaliers, disons. Fallait pas toucher. Faut pas oublier que à l'époque, la littérature était plus ou moins encore une affaire d'hommes, et elle était un écrivain de sexe féminin. Elle n'était pas la petite femme qui faisait un peu de la littérature à côté. Elle était vraiment un écrivain et de sexe féminin. Alors elle était l'unique femme qui comptait.
Je dis tu à Malina et tu à Ivan, mais une nuance imperceptible, impondérable, distingue ces deux tu. Avec l'un comme avec l'autre, j'ai renoncé d'emblée au vous qui m'écoutumiez. D'ordinaire, je dis « vous » à la plupart des gens. C'est une nécessité absolue pour moi, ne serait-ce que par prudence, mais je dispose d'au moins deux espèces de « vous ». L'un destiné au commun des gens, l'autre, un « vous » redoutable, d'une instrumentation complexe, que je ne pourrais jamais employer pour Malina ou pour Ivan, réservé aux hommes qu'il pourrait y avoir dans ma vie, à défaut d'Ivan. C'est à cause de lui qu'il m'arrive de me dérober derrière ce « vous » élusif et inquiétant, difficile à décrire, un « vous » dont on ne mesure que rarement l'attention, absente du tutoiement de camaraderie. Car bien entendu, je tutoie aussi toutes sortes de gens pour avoir été en classe, pour avoir étudié ou travaillé avec eux, mais cela ne signifie rien. Mon « vous » se rapproche peut-être de celui de Fanny Goldman, dont on prétend, sur la seule fois des on-dit, qu'elle a toujours obstinément vouvoyé ses amants. Elle vouvoyait aussi, naturellement, les hommes qui ne pouvaient pas le devenir. On connaît celui à qui elle aurait dit son plus beau « vous ». Sans que ce genre de femme, dont on parle sans cesse, y puisse rien, un beau jour, une phrase court la ville. « Mais d'où sortez-vous? Vous ne le saviez pas? Elle a réussi ses plus grandes amours, et il y en a eu beaucoup, grâce à ses vous incomparables. » Même Malina, qui ne dit jamais rien, en bien ou en mal de personne, racontant qu'il a fait la connaissance de Fanny Goldman chez les Jordan, ne peut s'empêcher d'ajouter « Je n'ai jamais entendu une femme dire vous comme elle. »
Thank you. chose qui m'a fascinée d'emblée chez elle, c'est
Pindale.
Un mélange de très grande lucidité et de compassion en même temps. C'est qu'en fait, on a l'impression qu'elle vous parle de manière lucide, clairvoyante, et qu'elle n'est dupe de rien. Mais en même temps, elle ne vous parle pas du haut de sa chair. Même quand elle donnait des cours sur Wittgenstein, elle était très proche. Et c'est ce mélange d'extrême lucidité. Et en même temps, elle est toujours quelque part égarée comme tout le monde. Et ça, je crois, m'a touchée. Et puis, il y a une manière d'écrire chez elle qui est unique, à savoir qu'elle emploie toujours le jeu, presque souvent le jeu masculin, sauf dans Malina, mais Malina, le prénom est un prénom féminin et c'est un personnage masculin, et elle est à la fois elle et Malina. Et elle utilise très souvent le jeu masculin pour parler d'elle. Et j'ai plutôt tendance à faire la même chose. Donc c'est cette espèce d'androgynie dans l'écriture, et même dans le cycle Malina, Requiem pour Fanny Goldman et Franza, c'est toujours trois, à la recherche du chiffre 3, qui serait en fait le chiffre de la délivrance, c'est en même temps quelque chose d'irrésolu, et c'est en fait comment sortir du masculin féminin et ne pas être... Et quand par exemple, dans une de ses nouvelles, l'adieu de la sirène Ondine, en fait c'est la sirène Ondine qui parle, et elle s'adresse aux hommes sous le titre, sous le nom générique de Hans. Évidemment, c'est une charge terrible contre les hommes. Elle les accuse d'être lâches, d'être soucieux avant tout de leur petit bonheur, de leur petite carrière, de leur et en même temps, ils sont dans leur petite maison et le soir, quand vient le soir, ils s'échappent, ils vont dans le jardin et ils rêvent de l'appel de la sirène Ondine. Et même, en fait, quand elle s'adresse de cette manière, de manière très nette et très tranchante, comme une femme qui accuse des hommes, en fait, quand on l'interroge là-dessus, elle dit « Mais non, moi je suis du côté de Hans aussi. Je suis parmi aussi ces hommes que j'accuse. »
On pourrait presque penser que ce serait un texte féministe. D'ailleurs, je me dis toujours qu'Ingeborg Bachmann était, si elle n'avait pas été un si grand poète, elle aurait été féministe. C'est-à-dire qu'elle a un propos défensif et donc très souvent dans l'expression agressive. Je veux dire que la défense s'exprime de manière furieuse. Et moi, je sais que c'est un texte que j'ai adoré. Parce que, justement, il est dans l'expression de la douleur la plus extrême, mais dans laquelle toutes les femmes se reconnaissent, parce que toutes les femmes ont fait cette expérience à un moment ou à un autre. En même temps, c'est admirablement poétique. Alors, il y a aussi ce personnage de Hans qui devient un universel. Enfin, c'est à la fois Hans, enfin, le personnage qui s'appelait Hans, et puis tous les hommes s'appellent Hans. Tout homme est un Hans. Je trouve ça très beau, parce que c'est vrai que ça cristallise quelque chose. Et au fond, ça poétise même l'ambivalence masculine. Parce que quand même, Hans est quelqu'un qui a aimé et qui a été aimé. et qui ensuite, tout simplement, oublie. Enfin, il oublie de manière meurtrière la personne qu'il a aimée. Alors, vous savez, ce texte-là, il existe sous toutes les formes possibles dans Ingeborg Bachmann. On retrouve tout le temps la même scène. La scène de l'abandon et je dirais, du chant d'adieu. Et je pensais justement que on retrouve ça sous une autre forme que je trouve absolument admirable dans Le Bon Dieu de Manhattan, où le personnage masculin s'appelle aussi Hans, d'une certaine manière. Enfin, il s'appelle Jan. Alors, moi, je me dis, d'ailleurs, est-ce qu'on dirait qu'il y a un référent? On dirait que dans la vie de Ingeborg Bachmann, il, comme ça, au fond, passe ce personnage à la fois totalement séduisant et abandonneur, pas du tout un donjon, hein, absolument pas. C'est toujours le grand amour qui tout d'un coup pourrit, révèle sa dimension meurtrière. Alors je me dis, c'est curieux, parce que c'est vrai, le signifiant se promène dans toute l'œuvre, et toujours portant cette charge absolument mortelle.
Naturellement, les hommes m'ont toujours intéressé, mais on n'est pas obligé pour autant de les apprécier. La plupart, je ne les aimais guère, mais ils m'ont toujours fasciné, ne serait-ce que parce qu'on se dit, que va-t-il se passer après la morsure à l'épaule, et qu'en attend-il? Ou bien quelqu'un te tourne le dos, un dos sur lequel une femme, bien avant toi, a tracé de ses ongles, de cinq griffes indélébiles, ses cinq sillons, te voilà bouleversé, embarrassé du moins. Que va-t-il falloir faire de ce dos qui te tend obstinément quelque chose? Le souvenir d'une extase ou d'une crise douloureuse? Quelle douleur vas-tu devoir éprouver? Quelle extase connaître? La plupart du temps, je n'éprouvais pas le moindre sentiment. C'était l'époque où la raison me venait. Je n'en avais pas moins tout le temps les hommes en tête, comme les autres femmes, pour les raisons que j'ai dites, et je suis bien certaine que les hommes, eux, ne m'y hébergeaient que rarement dans leur tête, après le travail tout au plus, ou les jours de congé. C'est un film que j'appelle un peu mon film manifeste, c'est tout dire.
Isabelle Huppert.
Parmi tous les films que j'ai faits, je serais presque tentée de dire, bah, c'est un petit peu voilà, celui que je... Non pas qui me ressemble le plus, mais celui que je revendique le plus, celui que, où une intimité est dévoilée.
Interprète du film Malina, de Werner Schroeter.
Moi, j'ai découvert Ingeborg Bachmann quand j'ai tourné le film. J'ai découvert un écrivain, je trouve que c'est un grand écrivain. Et puis j'ai découvert aussi certaines préoccupations, certaines considérations comme ça sur la vie qui n'appartiennent qu'à elle. Il y a cette façon, par exemple, de parler de la réalité à travers la vie quotidienne que je trouve extraordinaire, cette façon comme ça qu'elle a de montrer comment on peut se laisser submerger, enliser par les objets. Je trouve ça remarquable, très original. C'est quelque chose que j'avais jamais lu avant. Enfin, on trouve ça peut-être un peu chez Kafka dans certaines descriptions qui fait de la bureaucratie ou de la certaine lourdeur qui finissent par engluer complètement la vie réelle. Et je trouve que Ingeborg Bachmann justement rend très très bien compte de ça. Enfin, c'est quelque chose moi que j'ai très très bien ressenti, qui est bien traduit dans le film aussi par ce décor. On a l'impression qu'elle se laisse littéralement engloutir par ce courrier, par les objets. Elle se heurte constamment aux objets et on a l'impression que tout son désespoir et toute son inaptitude à vivre la réalité et toute sa tristesse aussi passe beaucoup en premier lieu par cette difficulté à, par exemple, quand elle a du mal à répondre aux courriers, et finalement C'est une observation très juste, je trouve. On est souvent submergé comme ça. Et c'est très féminin en même temps. Je ne pense pas qu'un homme, justement, aurait pu décrire ça aussi bien. Ça aurait été beaucoup plus conceptualisé, probablement, dans une écriture d'homme. Et je trouve que c'est une vision très féminine en même temps de la vie réelle.
C'est moi et ce n'est pas moi. C'est mon corps et ce n'est pas mon corps. C'est une voix, mais ce n'est pas ma voix. C'est une force qui me pousse et qui m'anime. Ce n'est pas moi. Et c'est moi pourtant, avec eux. Oh mes théâtres, oh mes silences, mes paradis et mes enfers, mes ténèbres et ma transparence, oh mes étés, oh mes hivers, oh mes velours, oh mes amours, oh mes vaisseaux, oh mes oiseaux, vous avez tous le ciel immense de me mes multiples pays.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Schriftsteller, und das ist in seiner Natur, wünscht sich Gehör zu verschaffen. Und doch erscheint es ihm eines Tages wunderbar, wenn er fühlt, dass er zu wirken vermag.
La vérité est exigible de l'homme. Discours de remerciement d'Ingeborg Bachmann en 1959 pour la réception du prix des aveugles de guerre pour sa pièce radiophonique Le bon Dieu de Manhattan.
Verwundet und voll von dem großen geheimen Schmerz, mit dem der Mensch vor allen anderen Geschöpfen ausgezeichnet ist. Jener geheime Schmerz macht uns erst für die Erfahrung empfindlich und insbesondere für die der Wahrheit. Wir sagen sehr einfach und richtig, wenn wir in diesen Zustand kommen, den hellen Wehen, in dem der Schmerz fruchtbar wird. Mir sind die Augen aufgegangen. Wir sagen das nicht, weil wir eine Sache oder einen Vorfall äußerlich wahrgenommen haben, sondern weil wir begreifen, was wir doch nicht sehen können. Und das sollte die Kunst zu Wege bringen, dass uns in diesem Sinn die Augen aufgehen.
Moi, c'était, elle arrivait un petit peu chez moi. C'était pas une terre étrangère, voilà. C'est quelque chose qui m'était familier, que je connais. Je crois que pour moi, l'histoire et le film et le livre, c'est quelque chose. Elle parle du désir, elle parle de la mort aussi qui est associée au désir. Elle parle du désir en tant que chose mortelle. Et je crois que c'est quelque chose sur lequel j'avais suffisamment réfléchi avant pour que ça ne me surprenne pas. Et j'ai pas le sentiment que tout d'un coup on m'a fait découvrir des terres qui étaient totalement étrangères. Donc je crois pas que c'était dangereux, au contraire. C'était encore une fois une façon de me libérer plutôt de certaines choses. Mais moi, j'ai le souvenir du tournage comme étant quelque chose de très, très, plutôt assez joyeux, en fait. Parce que j'ai l'impression que ce dont parle précisément et profondément le film, c'est une espèce de dualité comme ça entre la vie et la mort. Et je crois que le désir de vie est aussi fort, ou que le désir de mort est le corollaire du désir de vie. Et il me semble que la problématique dans laquelle s'est trouvé Bachmann toute sa vie, je ne connais pas son œuvre sur le bout des doigts, mais il me semble que ce qu'elle nous laisse entrevoir dans Malina, justement, c'est une sorte de chose totalement inassouvissable, mais qu'à l'intérieur même de cette chose non assouvie, il y a un grand, grand désir de vie. C'est comme c'est quelque chose qui est insatiable. Mais je crois qu'il y a un goût pour la vie, un goût pour la vie tellement, tellement grand, évidemment, qu'il ne peut passer que par la mort.
Du hart herum, warm Herz, Gott an,
quelques années, quand j'étais invité à une université aux États-Unis. Et là, il fallait choisir, à part des propres livres, il fallait choisir un auteur. Et j'avais choisi Ingeborg Bachmann, je ne sais plus pour quelle raison, par hasard. Et ça me donnait l'occasion de me plonger dans ces deux livres. C'était Franz et Fanny Goldman.
Paul Nizon.
Qui m'ont vraiment profondément impressionné. Parce que ça va très loin avec l'expression ou la dénonciation d'une souffrance intérieure qui reflète une souffrance beaucoup plus généralisée, disons, quelque chose comme ça, de ce genre. Et c'est très, très... L'émotion est très grande et de l'autre côté, la réflexion cachée est très présente aussi. Moi, j'ai publié mon premier livre en 59 et on s'est connus alors un an plus tard et puis j'ai publié le premier roman Canto en 63 et pour moi, c'était presque un appui. Je ne me rendais pas compte à l'époque, mais je crois aujourd'hui que c'était quelque chose. Je sentais que j'avais un appui dans la littérature ou l'expression d'Ingeborg Bachmann.
Ouais. Elle ne dissociait pas la vie de l'écriture. Ça, c'est important aussi. Il y a une sorte de confusion, d'interpénétration de la vie de l'écriture pour Bachmann. Et c'était ça que vous trouviez chez elle?
Peut-être ça aussi. Hein. Oui, peut-être ça aussi. Mais aussi, par exemple, non, pas seulement ça, mais vraiment se donner jusqu'au point où on se brûle. Hein, parce que, disons presque le sacrifice.
Ich sah sie vor der Türe stehen, als ich nach Haus kam gestern Nacht. Froh war ich gar nicht, sie zu sehen. Nun fand sie mich, hab ich gedacht. Sie schleicht herbei auf leisen Sohlen, sie wittert, wenn ein Glück zerbrach. Und nun, der Teufel soll sie holen, nun kam sie zu mir, sie schlich mir nach. Nur sie mit ihren hohlen Wangen, den großen Augen schwarz umringt. Sie hieß es, die ins Herz das Bangen und uns die vielen Tränen bringt. Sie schenkt uns jene leeren Nächte, wo alles seinen Sinn verliert. Ich glaub, dass sie es fertig brächte, dass man sogar im Sommer friert.
C'est facile de se séparer quand tout va bien, à peu près bien. Mais ce n'est pas possible ainsi. Avec cette baffe que l'on essuie sur son visage, avec autant de questions restées sans réponse, que je pose à chaque instant. Toute la journée, je marmonne ces questions. Je ne cesse de dire, pourquoi as-tu fait cela? Et puisque tu l'as déjà fait, était-ce intentionnel? Pourquoi voulais-tu me détruire? Que t'ai-je donc fait? Parfois, je souhaite qu'il n'y ait rien eu là que de l'irréflexion. Mais peut-on par irréflexion? Non, on ne peut pas. Il savait bien que cette idée me viendrait un jour. Qu'aurait-il donc dû attendre? Ma mort? J'étais en très bonne santé, et tellement plus jeune que lui. Il ne peut donc avoir calculé dans ce sens-là. Ce serait plutôt le contraire. J'aurais alors un jour, dans 10 ou 20 ans, en rangeant ses travaux avec ses assistants, trouvé ses mémoires. C'est donc ce qu'il voulait, que 20 ou 30 ans de vie commune s'écroulent en cet instant. C'est cela qu'il voulait, comprends-tu? Tu parles de fascisme, c'est drôle. Je n'ai encore jamais entendu ce mot pour désigner un comportement privé. Non, pardonne-moi, cela me fait rire. Mais non, je ne pleure pas. Pourtant, ce terme convient, car il faut bien que cela commence quelque part, naturellement. Pourquoi n'en parle-t-on que lorsqu'il s'agit d'idées ou d'actions publiques? Oui, il est mauvais. Même si aujourd'hui on ne peut pas dire mauvais, mais seulement malade. Mais quelle est cette maladie dont souffrent les autres et pas le malade? Il doit être fou. Et il n'est personne qui donne l'impression d'être plus raisonnable. Je ne peux expliquer cela à quiconque. Je ne peux aller nulle part et prouver qu'il l'est véritablement. Avec quelle cruauté il m'a tourmenté. Mais pas spontanément, ou du moins rarement, non, avec réflexion. Tout cela était calculé, tactique, tactique. Comment peut-on calculer ainsi? Que de questions inutiles. Quand cela existe, et je ne l'avais pas remarqué jusque-là,
quand les sadiques ne sont pas seulement dans des services psychiatriques et dans les salles des tribunaux, mais qu'on les trouve parmi nous, avec des chemises blanches impeccables et des titres de professeurs, munis des instruments de torture de l'intelligence. Non. Non.
Franza est une jeune femme mariée à un éminent psychiatre de Vienne. Et cette femme a le sentiment...
Miguel Couffon.
Sentiment qui va naître, qui va grandir, qu'en fait son mari l'exploite. C'est-à-dire qu'il ne voit en elle qu'un cas médical. Le titre allemand, d'ailleurs, c'est Der Fall Franza, le cas Franza. C'est un cas médical. Et il y a un moment où... Donc Franza va se sentir complètement... coincée, exploitée par son mari, et elle va tenter d'échapper à son emprise et de retrouver son identité, sa véritable identité, ce qu'elle est, Franza. Et ce roman, c'est une recherche, justement, de ses racines, de son identité, et sans doute, assez directement, une recherche des racines de Bachmann elle-même. Alors, ses racines, elle va d'abord tenter de les retrouver dans son paysage natal, justement, dans cette Carinthie où Bachmann est né, et où se situe la première partie donc du roman, qui est en fait essentiellement une évocation des années de jeunesse.
Avec son frère, puisque c'est son frère.
Avec son frère, qui joue un rôle assez analogue à celui de Ivan et de Malina dans le roman Malina. Et cette présence de ces personnages n'est pas du tout fortuite, ils ne sont pas un simple élément de décor. En fait, Franza a besoin de son frère, comme l'héroïne anonyme du roman Malina, a besoin de Malina et d'Ivan. C'est-à-dire que, prenons le frère de Franza, Martin, c'est un scientifique, comme par hasard. Et c'est un scientifique qui jette sur le monde, sur l'univers symbolique de Bachmann, le regard froid et, si possible, objectif, du scientifique. Et il refuse complètement d'abord de rechercher, ensuite de reconnaître ces signes, cette symbolique que Franza croit voir ou croit trouver ici ou là. Et le frère, donc Martin, le frère de Franza, est pour elle, il est le lien avec la réalité, il est ce qui empêche Franza de partir complètement dans le domaine du rêve, et je pense même dans le domaine de la folie.
Alors il y a une chose, ça c'est une chose très étrange, parce qu'en même temps, il y a dans ce livre toute une théorie sur une sorte de fascisme quotidien, et ça je trouve que c'est un peu le nœud, enfin, oui. Une chose très importante pour Bachmann, où le fascisme, d'où ça vient,
absolument.
Ça commence oui. Entre soi et soi, et d'abord dans le couple, entre l'homme et la femme, donc l'homme qui tue la femme.
C'est un élément fondamental dans l'œuvre de Bachmann, en effet.
Où
commence le fascisme? Non, pas quand sont jetées les premières bombes, ce que peut écrire n'importe quel journal. Il commence dans les relations entre les êtres. Et au premier chef, entre un homme et une femme. Dans cette société, il y a toujours la guerre. Non pas la guerre et la paix, seulement la guerre.
Alors Franza devient folle, enfin elle est rendue folle par le psychiatre. Évidemment, le paradoxe est là, hein. Celui qui devrait vous donner la raison vous donne la folie. Mais le texte lui-même, Franza, qui est splendide dans l'écriture, est un texte fou. C'est un texte perdu. C'est le texte qui raconte la perte de cette personne. Et en même temps, c'est un texte perdu et dans lequel la lecture se perd aussi. Même si il y a de tous côtés des fragments préservés. D'ailleurs, c'est beau. Il y a énormément, vous devez vous en souvenir. Ça travaille beaucoup sur l'archéologie. Et ça va en Égypte, enfin bon, tout ça est splendide. Parce que la métaphore est très active.
Et la géologie aussi, parce que
oui,
le frère
est géologue. C'est magnifique. Et ce sont des gens, justement, eux, ce sont des conservateurs du patrimoine ou du matrimoine terrestre, le frère et la sœur. Alors, il y a des choses qui sont préservées, il y a des choses qui sont sauvées, mais elles sont évidemment sous la terre. Voilà. Tout ce qui marche dessus l'écrase. C'est absolument épouvantable. Mais c'est vrai qu'en même temps, il y a les séquences, puisque sans cesse reviennent des moments du passé de Franza. Ces moments-là sont d'une pureté, d'une beauté absolue. Et alors, ce qui est magnifique, c'est qu'on voit, par exemple, que cette Franza qui est devenue folle, et qui est un personnage donc assez répugnant, comme le sont tous les fous, je veux dire, toute personne folle, homme ou femme, devient enfin, est possédée de monstres et devient monstrueuse. Elle est insupportable. Et on voit la jeune Franza. Ça, je trouve ça très fort de la part de Ingeborg Bachmann. Alors la jeune Franza, la petite fille, la jeune fille, c'est tout le contraire. C'est un personnage fort, rêveur, beau, tendre, généreux et totalement préservé, pas du tout fou justement. Donc c'est merveilleux parce qu'on voit le foudroiement par la folie ensuite, qui lui est asséné par toute la méchanceté de ce fossile, le psychiatre.
Il m'a pris mes biens, mon rire, ma tendresse, ma disposition à faire plaisir, à aider, ma compassion, mon animalité, mon rayonnement. Il en a écrasé toute manifestation, jusqu'à ce que rien ne se manifestât plus. Mais pourquoi un être humain fait-il cela? C'est ce que je ne comprends pas. Mais il n'y a pas à comprendre, non plus pourquoi les Blancs ont pris les biens des Noirs, pas seulement les diamants et les arachides, le pétrole et les dattes, mais la paix dans laquelle croissent ces biens, et la santé sans laquelle on ne peut vivre. Je ne peux plus vivre non plus parce qu'il a mes objets. C'est bien ainsi que je le pense. Notre corbeille à pain en argent, par exemple. Nos bols, cela m'est insupportable. Je pense que sa main ne peut pas prendre le pain dans cette corbeille. Elle en ressortirait plutôt lépreuse. Le pain moisirait plutôt dedans. Parce que j'y pense constamment. Parce que cette corbeille à pain prend dans mes représentations la dimension de grange gigantesque. Pour toutes les moissons, de jour en jour, cela empire cette souffrance. Cela rend la magie possible. Je suis une papoue.
Je pense que c'est quelqu'un qui a crié. C'est très rare. Je veux dire, c'est très rare en écriture, hein, parce qu'en réalité, je pense que les femmes crient beaucoup. Mais c'est vrai qu'elles peuvent aussi crier silencieusement, pousser des cris non entendus, donc rendus muets. Mais elles crient en écriture. C'est très difficile à faire. En fait, je connais personne, à part elle, qui l'ait fait. Je veux dire, je ne connais pas de femme qui ait écrit à notre époque. Et qui est écrit le cri, pas sous la forme comme ça de l'onomatopée, mais c'est vrai sous la forme du hurlement chanté, de l'invective, de la plainte. Et au moment où je vous dis ça, je me dis, au fond, le seul endroit où on voit des femmes qui crient, c'est dans la tragédie grecque. Après, il n'y en a pas.
Parce que dans le cri, vous mettez aussi l'idée du chant.
Parce que Ingeborg Bachmann l'a fait chanter, je veux dire, c'est jamais un cri brut. C'est très élaboré. Je vous dis, ça me fait penser justement à la tragédie grecque. Après, il n'y a plus rien, il y a une coupure. Si vous montez ensuite, comme ça, les escaliers de l'histoire littéraire, à travers toute tragédie, puisque c'est tragique, hein, c'est une œuvre tragique, vous ne trouvez jamais l'élaboration d'un vrai cri, d'une vraie plainte. C'est-à-dire, crier, se plaindre, ça signifie bien sûr le désespoir, mais ça signifie aussi l'espoir, d'une certaine manière. Ça signifie que, malgré tout, on se révolte, malgré tout. On dit l'injustice, et comme dans la tragédie grecque, on la criait vers les dieux et contre les dieux, donc d'une certaine manière, il y a des dieux. Enfin, il y a quelqu'un qui entendra. Bon. Alors je me dis, elle, alors qu'en même temps, elle sait qu'on n'entendra pas, d'une certaine manière, et à cause de sa puissance d'écriture, sûrement qu'il devait y avoir quelqu'un qui devait l'entendre ou qui pouvait l'entendre. Alors probablement des poètes.
Man hat mich schon manchmal gefragt, warum ich einen Gedanken habe.
On m'a déjà demandé pourquoi je m'imagine
von einem utopischen Land,
un pays utopique,
eine utopischen Welt,
un monde utopique,
in der alles gut sein wird, und in der wir alle gut sein werden,
dans lequel tout serait bien
darauf
et où nous serions tous bons.
Wenn man dauernd konfrontiert wird mit der Abscheulichkeit,
répondre peut paraître paradoxal. Quand on est sans cesse confronté à l'horreur de cette vie quotidienne.
Reich ist man, wenn man etwas hat, das mehr ist.
Être riche, c'est posséder quelque chose en plus des choses matérielles. Je ne crois pas à ce matérialisme, à cette société de consommation, à ce capitalisme, à cette monstruosité, à cet enrichissement de gens qui n'ont pas le droit de s'enrichir. Je crois vraiment qu'un jour viendra et qu'un jour ça arrivera. Mais ça n'arrivera sans doute pas. On nous l'a toujours détruit. Et pourtant j'y crois. Si je ne pouvais pas y croire, je ne pourrais pas non plus écrire.
Oui, j'aime de nouveau la vie et Rome, in fine del conti, était ce qu'il me fallait.
Ah, pas du tout, je ne suis pas morbide.
Pourquoi, je n'en sais rien. J'aime tant être ici, c'est tout. Cela me plaît de nouveau. Pourquoi, je n'en sais rien.
Mémoire ? Mémoire ? Mémoire.
Vous n'avez pas eu envie de faire un film autour d'Ingeborg Bachmann ?
Si vous voulez, je suis allé à la recherche d'Ingeborg Bachmann à travers mon film sur Max Frisch. Et effectivement, j'aurais pu aussi faire un film sur elle, mais comme j'étais engagé dans un film sur Max Frisch, mais j'ai filmé beaucoup de choses, des traces de sa vie, dont je ne me suis pas servi après dans mon film, vu que ça aurait fait éclater mon film sur Frisch. Mais c'est une femme que j'ai bien connue à travers mes recherches. Je suis allé dans sa ville natale, j'ai filmé sa tombe, sa maison, j'ai filmé les lieux où elle a vécu à Rome, j'ai filmé l'hôpital où elle est morte, la chambre dans laquelle, le lit dans lequel elle est morte. Je veux dire, tout cela, moi je suis quelqu'un qui travaille sur l'émouvance du lieu réel. J'ai aussi parlé avec sa sœur, j'ai parlé avec des amis à elle à Rome, parce qu'il y a tout un mystère autour d'elle, un peu comme chez Rimbaud, un mystère dans la mesure où sa mort est restée mystérieuse. Il y a des gens qui prétendent qu'elle a été assassinée. Et donc, il y a tout un mythe aussi à travers cette mort très étrange, brûlée. Cette mort brûle, d'autant plus qu'elle en a parlé elle-même, d'une manière assez prophétique de sa mort, dans un texte, de ce feu qui la brûle. Et donc, j'ai fait toute une enquête autour d'elle.
Cela s'est passé il y a 13 ans. Ingeborg est morte. Nous nous sommes parlé pour la dernière fois en 1963, dans un café de Rome, dans la matinée. Je l'entends dire que dans cet appartement, la maison de l'Arbre Lent, elle a trouvé mon journal dans un tiroir fermé à clé. Elle a lu et brûlé. Nous ne nous sommes pas bien tirés de la fin de notre histoire, ni l'un ni l'autre.
Ingeborg Bachmann est morte à Rome le 17 octobre 1973, à l'âge de 47 ans. C'était Une vie, une œuvre. Avec Jean Bollack, Hélène Sixous, Miguel Couffon, traducteur de Franza et Requiem pour Fanny Goldman, Richard Dindou, Linda Lee, Paul Nison, Françoise Rétif et Barbara, Kathleen Ferrier, Hans-Werner Henze. Texte dit par Isabelle Huppert et Marc Blesinger, enregistré à l'hôtel Lutetia à Paris. Extrait du film de Richard Dindou, Max Frisch, journal 1-3. Les livres de Ingeborg Bachmann sont publiés aux éditions Actes Sud, à l'exception de Manina, publié au Seuil dans la traduction de Philippe Jacotet. Le numéro 35 des Cahiers du Griffe est consacré à Ingeborg Bachmann. Enregistrement Frédéric Joly. Mixage Cyril Bécu, Fabien Leclerc. Une émission de Blandine Masson. Réalisation Jean-Claude Loiseau.
C'était Une vie, une œuvre. Une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Bibliographie, liens, réécoute, podcast, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et demain, l'autre moitié de la paire, l'auteur, l'amant et l'architecte, Max Frisch.